Tout d'abord, merci à Christine d'avoir accepté de lire ce texte dans une traduction catholique, sous le prétexte que j'ai préparé cette homélie, cette prédication avec ce texte, vous allez voir, avec cette traduction, vous allez voir que ça a un petit peu d'importance. C'est un petit récit très simple, très facile, quelle que soit la traduction, très facile à suivre et à comprendre. Et du reste, quand il y a un mot qui pourrait être un peu plus compliqué, il est immédiatement expliqué ou traduit, ce qu'il veut dire, dit le texte. Mais c'est aussi un texte tellement riche aussi qu'on pourrait dire que beaucoup des grands thèmes de l'évangile de Jean sont déjà présents ici, comme introduits subrepticement dans ce récit. Alors je voudrais juste prendre le temps de voir avec vous comment, justement, ces grands thèmes sont déjà introduits, en m'intéressant au verbe. C'est l'ancien prof de littérature qui ressort, là. En m'intéressant au verbe de ce texte, et encore pas tous les verbes, mais ceux qui y sont répétés. On a l'habitude de dire, et c'est vrai, que les textes attribués à saint Jean sont très répétitifs. Mais ces répétitions, évidemment, ne sont pas des maladresses. Elles soulignent des messages importants. Alors ici, commençons par cette expression simple, mais tout de même un peu originale, poser son regard sur, ou selon la taupe, fixer de son regard, c'est ça. Voilà. Bon. Alors on peut regarder quelqu'un, on peut voir quelqu'un, mais poser son regard sur quelqu'un, ou encore plus fixer son regard sur quelqu'un, c'est déjà évidemment beaucoup plus insistant, beaucoup plus précis. Ça marque qu'on distingue quelqu'un. Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus. Et Jésus pose son regard sur Simon. Et chaque fois, la parole qui va suivre est une parole forte de révélation. Voici l'agneau de Dieu. Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas. Celui qui pose son regard voit plus que ce que ses yeux voient. Et les paroles qu'il prononce le manifestent. Il y a trois autres verbes aussi qui sont répétés, se croisent et se retrouvent. Entendre, voir et suivre. Ce sont des verbes courants s'il en est. Mais il faudrait s'attarder un peu, regarder tout leur jeu ici et puis aussi surtout dans tout l'évangile de Jean. Alors juste deux, trois petits rappels. Rappelons-nous, au moment de la passion du Christ, Pierre qui dit « Je te suivrai, quoi qu'il arrive », Jésus qui lui dit « Non, tu n'en es pas capable maintenant ». Et puis après la résurrection, après ce très beau dialogue, m'aimes-tu ? Après ce pardon offert et reçu, le dernier mot très court de Jésus à Pierre, c'est « Suis-moi ». Autre verbe aussi tellement important dans l'évangile de Jean, le verbe « voir ». Et bien sûr, nous revient à l'esprit cet autre épisode après la résurrection, cette rencontre de Thomas, « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Vous voyez ces verbes en apparence tout simples qui apparaissent pour certains d'entre eux pour la première fois dans l'évangile de Jean ici et qui vont avoir tellement d'importance. Cette première rencontre des premiers disciples, ces premiers regards, ces premières paroles échangées, cette première suite du Christ sont déjà pleins de l'histoire à venir. Et à propos de paroles échangées, vous avez entendu la première question posée par les futurs apôtres à Jésus. Elle est assez banale. Où demeures-tu ? La réponse de Jésus sur le même registre, logique et familier, venez et vous verrez. Donc ils y vont et ils voient, dit le texte, où Jésus demeure. C'est la première fois que ce verbe demeurer est employé dans l'évangile de Jean. Et c'est exactement le même verbe, il faut aller vérifier en grec quand même, mais je l'ai fait, rassurez-vous. C'est exactement le même verbe que Jésus emploie de manière très répétitive et très insistante dans son dernier discours quand il dit que Dieu demeure en lui, que lui demeure en Dieu, que celui qu'il aime demeure en lui et qu'il demeure en celui qu'il aime. C'est le même verbe. Voyez, cela est aussi en germe dès le début de l'Évangile, dès la première rencontre, la première parole échangée avec les disciples. Les deux derniers verbes que je voudrais évoquer avec vous ce matin me ramènent au temps très lointain, j'ai mis un peu lointain, mais c'est même très lointain, de mes études littéraires puis théologiques. À l'époque, on aimait bien jargonner un peu. Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement abandonné cette manie, mais c'était particulièrement visible et présent à l'époque. Et parmi les mots à la mode, dans les études, on trouvait les suivants. Heuristique et herméneutique. Je suis sûr que ça doit rappeler des souvenirs à quelques-uns. Alors, en gros, disons que l'heuristique, c'est à peu près, il y a peut-être des plus savants parmi vous qui vont dire qu'il est complètement à côté, enfin, en gros, la science de la connaissance. Mais d'une connaissance qu'on n'a pas construite ou élaborée soi-même, d'une connaissance qui nous est donnée, que l'on découvre, que l'on reçoit. Disons que ce qui relève de l'heuristique, c'est ce qui est de l'ordre de la découverte. L'herméneutique, à vos souhaits. C'est plutôt la science de l'interprétation. Quelque chose nous est donné, mais pour le faire entrer dans le cadre de nos connaissances, dans notre univers de pensée, nous le traduisons, nous l'interprétons, nous l'adaptons. Donc simplement, disons que ce qui relève de l'herméneutique est de l'ordre de l'interprétation. Et là, vous vous dites, on l'a complètement perdu. Quel rapport avec ce texte si simple de Jean ? Eh bien, figurez-vous que heuristique vient d'un verbe grec. Eurisco. Et eurisco, c'est le verbe qui est employé deux fois dans la phrase suivante. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ça n'aurait pas été très compliqué pour le rédacteur de l'Évangile de choisir deux verbes différents, d'autant que ça n'a pas tout à fait le même type de rencontre. Et pourtant, il a choisi le même verbe. C'est sans doute que c'est important. Important de dire que la rencontre du Messie d'abord, puis la rencontre immédiate de Simon, pour lui en parler, c'est quelque chose qui a été donné à André, comme un cadeau. Quelque chose qu'il n'a ni cherché, ni construit lui-même, qu'il n'a évidemment pas mérité. Ça, c'est pour ça, je l'ai mis exprès pour vous. Hein.
Je peux le dire tout
à l'heure aussi. Hein. Ah, mais je dis la même chose, je te promets, la même chose. J'ai déjà dit la même chose à 9h. Autrement dit, ce que dans la foi nous pouvons appeler une grâce. Et herméneutique. Eh bien, figurez-vous que ça vient aussi d'un verbe grec, herméneo, et que c'est ce verbe qui est employé trois fois dans notre évangile, chaque fois qu'un mot nous est expliqué, traduit, interprété, pour que nous puissions le comprendre. Vous voyez, il y a des choses qui sont données comme immédiate, toute gracieuse. Et certains d'entre nous, je crois, sont particulièrement attachés et sensibles à cette immédiateté. Et puis, il y a des choses qui, pour être reçues, intégrées, comprises, demandent la médiation d'une traduction, d'une explication, d'une interprétation. Et certains d'entre nous sont particulièrement sensibles à cette nécessaire médiation. J'aime bien que ce texte d'Évangile concilie ces deux approches. Et pas seulement par l'emploi de ces deux verbes que je viens de citer et qui ont donné en français des mots un peu trop savants. La rencontre entre Jésus et ses premiers disciples, vous l'aurez noté dans ce texte, chez saint Jean, il ne s'agit pas d'un appel, il s'agit véritablement d'une rencontre. Elle est pure grâce. Il se trouve que ça se fait. Que l'on se trouve, les uns les autres, par une conjonction heureuse, où nous pouvons voir la main de Dieu. Mais aussi, cette rencontre de grâce se réalise par la médiation de Jean-Baptiste, qui désigne Jésus à ses disciples, ou encore par la médiation d'André, qui amène à Jésus son frère Simon. Oui, j'aime bien cette conjonction de la grâce immédiate et de la médiation humaine nous soit proposée par un texte qui dit comment on devient disciple du Christ. Et évidemment, j'aime bien aussi que ce texte nous soit donné tandis que nous prions ensemble pour cette unité des chrétiens. qui ne peut être qu'une grâce donnée par Dieu et à laquelle pourtant nous essayons de travailler avec cœur. Que le Seigneur nous donne comme une grâce cette unité vers laquelle nous avançons ensemble.